Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Environ 30 personnes tuées la nuit dernière dans une attaque des EDF à Bouera. C'est à la frontière RDC-Ouganda du côté de l'Ituri. La plupart des victimes sont des élèves d'une école de la place, rapporte des sources sur place. Information confirmée par des sources des FARDC et de la MONUSCO à Bounia. Nord Kivu, manifestation ce samedi à Goma. Des femmes déplacées de guerre et sinistrées du volcan Nyiragongo. Elles étaient une centaine venues du site de Kayembe. Elles protestent entre autres contre les mauvaises conditions de vie dans ce site et exigent leur retour chez elles. Et puis, la journée internationale des procès équitables pour les justiciables a été célébrée le 14 juin. Cependant, dans la région de Beni et Lubero, il s'observe des conflits récurrents qui occasionnent souvent mort d'hommes à cause des jugements mal rendus. Pour en parler, nous recevons Maître Pépin Kavota, président de la société civile Force Vive, coordination urbaine de Beni. Madame, Messieurs, bonjour. Environ 30 personnes sont mortes dans une attaque des rebelles des EDF à Bouera. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à ce samedi à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Plusieurs sources affirment que les victimes sont en majorité des élèves d'une école de la place. L'information est confirmée par des sources des FARDC et de la MONUSCO à Bounia. Selon la police ougandaise, l'armée de ce pays est à la poursuite de l'ennemi dans ses retranchements vers le prolongement du parc de Virunga. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Cette attaque des ADF a eu lieu précisément dans un internat de l'établissement scolaire du lycée Lubirira à Pongwe dans l'agglomération de Bouera en Ouganda, non loin de la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources, ces rebelles ont attaqué cette école tard dans la nuit pendant que les élèves dormaient. Le porte-parole de la police ougandaise est cité par des confrères de la presse de ce pays parle d'un bilan provisoire. Des 30 morts et 8 blessés graves acheminés à l'hôpital Bouéré pour des soins. Fred Enanga précise que les forces ougandaises sont à la poursuite de ces rebelles qui seraient retranchés au prolongement du parc de Virunga. Un des membres des victimes joint au téléphone depuis l'Ouganda au lieu où se trouvent les cadavres et des blessés affirme que plusieurs personnes sont portées disparues pour le moment. Notons que c'est la deuxième attaque des ADF dans les territoires ougandais depuis que les opérations conjointes FRDC et OPDF sont en cours dans les territoires du Romo, Anitori et de Beni au nord Kivu, après celle de la localité de Bouiramouré dans les districts ougandais de Ntoroto le 11 décembre 2022, laquelle avait entraîné la mort de plusieurs personnes. Depuis Goma, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au nord Kivu, la situation reste tendue ce samedi dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Le théâtre des affrontements se situe dans les deux groupes de la chefferie des Bachali. Les hostilités opposent les rebelles du M23 aux groupes armés locaux depuis plus de 3 jours. L'armée congolaise affirme suivre la situation et annonce des mesures pour assurer la sécurité des civils dans la zone. Bernardin Nyangi, reportage.
Les combats qui opposent la coalition APCLS Nyatura aux rebelles du M23 ont encore repris vers 2h du matin ce samedi dans l'agglomération de Kirumbu, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Kichanga, dans le Bachali Mokoto, indiquent les sources locales. Elles ajoutent que ces combattants locaux, communément appelés les Wazalendo, auraient repris l'occupation des villages Kaira et Boutalé, qui étaient déjà occupés hier vendredi par les rebelles du M23. Ces derniers se seraient retirés vers Burungu, dans le Bachali Kayembe. Nos sources confirment que la situation reste tendue dans la zone depuis 3 jours, avec la reprise des hostilités. Au moins 2 civils, dont un enseignant, ont été tués et 5 autres blessés. Pendant ce temps, plusieurs villages restent vides de leur population. Le porte-parole militaire à Goma, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, indique que l'armée, qui suit de près la situation, a déjà pris des dispositions de riposte sans plus. Des sources de la force de l'EAC indiquent que le contingent burundais déployé sur l'axe Kichanga poursuit des patrouilles de combat pour tenter d'arrêter ces affrontements en faveur du processus de paix en cours. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, nouvelle opération de bouclage la nuit dernière dans la ville de Beni. Cette fois, la police a ciblé 4 quartiers de la commune de Mulekera, considérée comme l'une des plus chaudes de la ville. 74 personnes ont été interpellées lors de cette opération, dont 8 femmes. Pour la police, c'est pour lutter contre l'insécurité en forte hausse dans cette partie de la ville de Beni, où des incursions nocturnes d'hommes armés non identifiés sont régulièrement enregistrée. Le porte-parole de la police ville de Beni, Nasson Mourara, revient ici sur cette opération de bouclage. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
La police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni, a mené une opération de bouclage qui a ciblé 4 quartiers de la commune de Moulekera. Il s'agit du quartier Tamende, Boutili, Ngongolio et Kasangatua. Au cours de cette opération, 74 personnes ont été interpellées, parmi elles, 8 femmes. Nous avons saisi plus de 100 litres de boissons prohibées, des effets militaires, des chavres affumés, 13 chaises plastiques, 11 motos et 3 batteries. L'objectif de cette opération est de veiller à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Sans ignorer que la ville de Beni fait face à des cas d'incursion en répétition. Ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence parce qu'elles doivent être soumises devant les officiers de police judiciaire pour déterminer l'indice de culpabilité à chacun. Cette opération va s'étendre dans toutes les 4 communes de la ville de Beni.
Ituri, l'auditorat militaire près la cour militaire de l'Ituri a lancé 21 mandats d'arrêt contre les présumés auteurs de meurtres de 46 déplacés du site de Lala dans le territoire de Djougou. Dans un rapport publié vendredi, cette juridiction a chargé le secteur opérationnel de la 32e région militaire des FARDC d'exécuter ces mandats en procédant à l'arrestation de ces personnes qui seraient bien identifiées. Isaac Remoyope.
L'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri a ouvert un dossier judiciaire à charge de 21 présumés membres des groupes armés Codeco et Zaïre. Ils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel pour des violences commises dans la nuit du 12 au 13 juin au site des déplacés de Lala dans les territoires de Djougou. D'autres infractions seront déterminées à l'issue des enquêtes, précise les rapports de cette juridiction. Au cours de cette attaque, 46 personnes ont été tuées, 7 autres blessées et plusieurs dégâts matériels. Face à ces drames, l'auditorat supérieur a décerné 21 mandats d'arrêt contre ces personnes identifiées comme des responsables de ces deux groupes armés. Le secteur opérationnel de la 32e région militaire est chargé d'exécuter ces mandats et ainsi procéder à la recherche, à l'arrestation et à la mise à disposition de la justice pour leur poursuite. Pendant ce temps, la section d'appui à la justice de la MONUSCO, à travers une note de plaidoyer, demande à cette juridiction d'effectuer une descente au lieu du drame pour l'audition des victimes et témoins et faire le constat de ces attaques qui, selon elles, sont constitutives des crimes contre l'humanité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir dans la cité de Mwanda. Nous sommes au Congo central. Ici, 13 criminels ont écopé hier de la peine de mort. Ces condamnés sont poursuivis pour viol, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Le tribunal militaire de garnison militaire de Kitona, siégeant en matière pénale au premier degré, a rendu son verdict hier sur 3 affaires opposant le ministère public à ces criminels. Le substitut de l'auditeur militaire de garnison, le magistrat Jacques Ndombe, qui salue le travail abattu par la justice, rassure la population quant à la diminution du taux de criminalité après la condamnation de ces groupes de bandits. Des détails avec Nana Plurich Mambo.
Le tribunal militaire des garnisons de Kitona a rendu son verdict sur 3 affaires. La première concerne le vol à main armée perpétré dernièrement au quartier Makelekesi. Les bourreaux ont écopé de la peine capitale et sont soumis au paiement de 25 000 dollars à titre des dommages et intérêts. La seconde, c'est celui de Jafet Baleji, un bandit réputé de Mwanda, longtemps recherché par les services de sécurité. Lui et ses compères ont été arrêtés en flagrant délit de vol à main armée. Ils écopent d'une peine capitale aussi et devront payer 70 000 dollars de dommages et intérêts à la partie civile. Le dernier dossier est celui d'un viol sur un enfant de 6 ans commis par un militaire. Le bourreau de la gamine est condamné à 20 ans de prison. Le premier substitut de l'auditeur militaire des garnisons de Kitona, le magistrat Jacques Ndombe, rassure quant à une accalmie après la condamnation de ses malfrats.
Nous avons vécu une criminalité totale ici à Mwanda, mais je pense qu'avec le paix des criminels condamnés à la peine capitale, il y aura au moins une accalmie. Pour tous ceux qui sont restés, nous allons les appréhender et les déférer devant le tribunal militaire des garnisons.
Ce jugement est salué par la population de Mwanda qui assistait à ces séries d'audiences publiques tenues depuis près d'un mois à la tribune du territoire de Mwanda sous la direction de l'auditeur général des garnisons de Kitona, le major magistrat Monga Kalala Joseph. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, au Nord Kivu, une centaine de femmes déplacées de guerre et sinistrées du volcan Nyiragongo exigent le retour chez elles. Ces femmes venues du site de Kayembe dans le territoire de Nyiragongo ont manifesté pacifiquement dans les rues de Goma ce samedi. Elles contestent notamment les conditions humanitaires et sécuritaires qui, selon elles, se dégradent dans ce site. Bernardine Nyangi signe ce reportage.
Parti du camp de Kayembe le matin en groupement de Munigi, quelques-unes portant les enfants, ces femmes ont marché plus de 10 km à pied jusqu'au gouvernorat de province en brandissant des calicots pendant tout le trajet. Elles déclarent qu'outre le manque de nourriture et des conditions de vie précaires, leur sécurité se dégrade dans ce site.
Nous souffrons dans ces camps. Nous enterrons presque chaque jour des morts par manque de nourriture. L'eau nous est déjà coupée et les Wazalendo nous font souffrir. Ils nous attaquent et nous violent. Moi, par exemple, j'ai déjà été violée plus de 10 fois même.
Ces femmes déplacées et sinistrées demandent au gouvernement congolais d'organiser leur retour dans leur village.
Que les autorités restaurent la paix. Les déplacés sont venus s'ajouter aux sinistrés du volcan dans les sites de Kayembe et nous tous, personne ne nous assiste. Que le gouvernement nous vienne en aide.
Rappelons qu'en juillet 2022, quelques centaines de familles de déplacés et sinistrés du site de Kayembe avaient été recasées dans d'autres sites aménagés. Mais des milliers d'autres y vivent encore sans aide, dormant dans les maisons de fortune ou dans les classes de l'école primaire Kayembe. Goma, Bernard Ngangi, Radio Okapi.
Sud Kivu, les enfants du mouvement international Tapori dénoncent toute forme d'injustice et de discrimination contre les enfants de Bukavu. Ce groupe d'enfants lance ainsi une campagne pour les actions urgentes en faveur des enfants en situation difficile. Ces enfants se sont exprimés hier 16 juin à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain. C'était au cours d'une émission spéciale à Radio Kapi Bukavu. Mikaela Binja Mugisho, jeune fille de 9 ans, s'exprime ici au micro de Emmanuel Elameji.
Le 16 juin nous rappelle la journée africaine de l'enfant. C'est le jour où les enfants se réunissent pour la paix, pour les promotions de leurs droits et des libertés. L'enfant peut réclamer la justice comme ses droits parce que le Congo de demain, c'est nous. Le thème, c'est « Ensemble pour des actions urgentes en faveur des enfants en situation difficile ». Pour mener bien cette campagne, je pense que quand il y a une injustice quelque part, nous devrions dénoncer, par exemple, auprès des autorités. Nous allons rencontrer le maire de la ville, nous allons lui donner une liste des injustices qui se passent dans la ville. Nous allons lui remettre cette liste et nous allons discuter avec lui et sa décision sera la bonne, j'imagine. Parce que lui aussi se mettra à notre place.
Le rassemblement du 24 juin, nous serons avec les enfants victimes des incendies, par exemple à Kadutu. Nous ne manquerons pas de penser à ces décalés qui ont été victimes des éboulements et des érosions.
Célébration ce samedi 17 juin au Palais du Peuple ici à Kinshasa du 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD en sigle. Une dizaine de Premières Dames ont fait le déplacement pour cet anniversaire. Il s'agit notamment de celle de la Namibie qui est la présidente en exercice de l'organisation. On note aussi la présence des Premières Dames de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Botswana et du Burundi. Plusieurs discours sont prévus au cours de cette conférence plénière. C'est notamment sur les objectifs et le bilan de cette organisation 20 ans après, mais aussi des défis qui restent à relever dans les différents domaines d'action de l'OPDAD pour les 20 prochaines années. Notez qu'après le Palais du Peuple, les Premières Dames vont se diriger au village de l'OPDAD aménagé à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Les célébrations vont s'achever par un dîner de gala en vue de la levée de fonds pour le financement des projets à venir de l'organisation. Direction la province du Haut-Katanga, signalant l'inauguration jeudi à Lubumbashi des deux usines de l'entreprise Mining Engineering Service. Le ministre de l'Industrie qui avait posé la première pierre pour la construction de cette unité de production l'année passée s'est dit heureux de l'aboutissement de ce projet qui crée l'emploi et transforme les produits locaux. Notons que Julien Paluku a lancé aussi les travaux pour la construction d'une usine de fabrication des transformateurs électriques appartenant à la même entreprise. D'autres détails avec Jean Ganga.
La première est une usine de fabrication de câbles électriques avec comme principale matière première le cuivre. Cette usine bénéficie de l'appui financier du Fonds pour la promotion de l'industrie à hauteur de plus de 4 millions de dollars américains, environ 50% de son coût total. L'usine produira 70 000 km de câbles journalièrement. Une réalisation saluée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku.
Nous sommes à près de 1 million de kilomètres par mois qu'on peut produire à raison de près de 70 000 km par jour de câbles électriques. Cette usine est à même de produire les câbles qui peuvent faire le tour du Congo de 2 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire en 2 mois, l'usine peut produire les câbles qui peuvent encercler la République. Il est possible d'électrifier ce pays. Il est possible, comme a dit le président, de commencer la transformation locale dans ce pays.
La matérialisation de ce projet satisfait aussi le directeur en charge de marketing au sein de l'entreprise Mining Engineering Services, Charles Chibanda.
Donc ça fait vraiment de la joie parce que ça enrichit notre chaîne de valeur de cuivre. Au lieu d'exporter le cuivre métal, maintenant nous avons de câbles électriques fabriqués au Congo.
La deuxième usine est celle de la production d'une gamme de savons et de détergents. Encore Charles Chibanda, elle est constituée à 75% du personnel féminin. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale. Après Kiev, la délégation africaine met le cap sur Saint-Pétersbourg, au nord-ouest de la Russie, où elle est attendue ce samedi par le président russe Vladimir Poutine, au lendemain du rejet par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de son offre de médiation. La délégation menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa a proposé hier sa médiation de paix dans le conflit, estimant depuis la capitale ukrainienne qu'il devait y avoir une désescalade des deux côtés. Elle s'est vue opposer une fin de non-recevoir de la part du chef de l'État ukrainien qui a dénoncé une tromperie de Moscou en pleine contre-offensive de ses forces armées. L'OTAN a salué cette médiation tout en avertissant que seule une solution juste reconnaissant l'agression russe fonctionnerait. Avant même l'arrivée sur ses terres, les dirigeants africains, Vladimir Poutine, s'est quant à lui dit convaincu que la contre-offensive de Kiev n'avait aucune chance de réussir et que les pays occidentaux seraient bien obligés de revenir vers lui à ses conditions. Et nous verrons à quel moment et de quoi nous pourrons parler avec eux, a-t-il lancé.
L'invité.
Le 14 juin, c'était la journée internationale des procès équitables pour les justiciables, une réalité qui est loin d'être le cas dans la région de Beni et Lubero, selon des observateurs. Dans cette région, il s'observe des conflits récurrents qui occasionnent souvent mort d'hommes à cause des jugements mal rendus. Que faire pour changer la donne? Nous recevons à ce sujet le président de la société civile Force Vive Coordination Urbaine de Beni, Maître Pépin Kavota, répond aux questions de Guylaine Kassassia.
Pépin Kavota, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Vous êtes le président de la coordination urbaine de la société civile Beni. Chaque 14 juin, c'est la journée internationale de procès équitable pour les justiciables dans la région. Quelle est la réalité?
Merci beaucoup. Il faut dire que à Beni et Lubero, nous ne pouvons pas déjà parler qu'il y a, n'est-ce pas, des procès équitables sur terrain. Parce que lorsque nous sommes toujours en contact avec les justiciables qui est la population, nombreux sont ceux-là qui nous disent que dans les grands Nord Kivu, la justice n'est pas équitable.
Qu'est-ce qui serait à la non-transparence dans ces dossiers?
Au niveau des juridictions, vous trouverez des personnes nantis et des personnes non nantis. Et 90% des décisions ou des décisions judiciaires donnent gain de cause aux personnes nanties. Et c'est là pour s'assurer que les non-nanties sont par moments déguerpis, sont dépourvus de leurs droits sur pied des jugements rendus par nos juridictions. Et si vous allez même au parquet, certaines personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, qui nous arrivent au bureau de la coordination, elles nous disent qu'ils ont perdu. Ils ont été arrêtés parce que, tout simplement, ils n'ont pas eu l'argent pour donner à certains magistrats. Et il faut le dire ici, tous les procès ou les jugements, les décisions judiciaires est à l'œuvre humaine. Il y a toujours, n'est-ce pas, à dire que plusieurs procès sont marchandés par certains magistrats.
Oui, alors dans la région, quelles sont les conséquences de cette non-transparence?
Bon, les non prononcer des jugements équitables ou des jugements qui respectent la justice, parce qu'on le dit toujours que la justice élève une nation. Alors, lorsque vous essayez de voir, vous essayez de faire l'analyse dans la région, il y a toujours, n'est-ce pas, de l'insécurité, il y a des morts, il y a des décès, qui, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un procès, vous allez trouver que les membres de telle famille ont été assassinés, et des morts, on les voit partout. L'exemple tapant, c'est effectivement ce qui s'est passé l'année antérieure au niveau de la ville de Béni, où 4 personnes d'une même famille avaient été abattues sauvagement, sur pied effectivement d'un jugement, d'une décision de justice.
Donc les problèmes fonciers, ils sont à la base des règlements des comptes.
Pas seulement les problèmes fonciers, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un, un justiciable, se trouve être gagné dans un procès, il passe par un règlement de compte. Et que donc ici, les juges que nous avons, d'ailleurs, ça, votre intervention arrive au point nommé, parce que le chef de l'État a nommé récemment une ribambelle de magistrats qui vont entrer effectivement en exercice. Et nous leur demandons, n'est-ce pas, d'être acteurs des jugements, des décisions équitables.
En vous écoutant, donc la non-équitabilité de procès pour les comptes des justiciables, c'est un facteur aussi de la sécurité de la région.
Tout à fait. C'est autant que nous sommes en train d'appeler tout le monde, tous les justiciables, d'aller vers ce que nous appelons des résolutions alternatives de dossiers judiciaires. On s'est dit, un mauvais arrangement vaut bien qu'un beau procès.
Peut-être pour finir, face maintenant à ceux qui rendent mal les procès, que ferait la loi?
Bon, la loi pour ceux-là, ces juges, ces magistrats qui seraient en train de tremper dans la corruption ou concussion, nous pensons que la hiérarchie judiciaire sur base de plaintes des justiciables trouveront, n'est-ce pas, ici l'occasion d'être sanctionnés. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi.
Monsieur Pepeka Vota, nous vous remercions.
C'est à nous de vous remercier.
Notre invité est président de la Société Civile Force Vive Coordination Urbaine de Béni et répondait aux questions de Guylaine Kassassia. C'est la fin de ce journal coordonné par Noéla Luzitou, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.